et Thomas Gauthier.
1h02 à tous. Un excellent après-midi sur les ondes de Boulevard 102.1. Je vous rappelle qu'on a une super de belle promotion qui a débuté depuis quelques heures. C'est le grand retour du Rockin' Sports.
Rockin' Sports?
Ouais, on vous avait envoyé une game d'hockey plus un show de musique.
Ça, c'était le Rockin' Puck dans les derniers mois. Donc, c'était maintenant un match des Rangers puis un show de Fall Out Boy.
Et là, maintenant, la promo avec les auditeurs parce qu'on va vous faire gagner. Bien entendu, c'est le Rockin' Ball et on vous envoie en Californie.
On vous envoie à San Francisco, baby. Et oui, on est de retour avec un beau concours du même type que lui qu'on avait fait pour le Rockin' Puck. Puis c'est grâce à Variété 2020, notre partenaire dans cette belle aventure-là. Ton partenaire pour faire des économies. On va encore vous faire vivre un méchant beau trip. Comment ça se passe? Ça va être super. C'est malade comme voyage. Premièrement, la partie rock du voyage. Deux billets pour aller voir la tournée réunion de Blink-182 au Chase Center. Et le côté ball, on vous donne aussi deux billets pour aller voir les Blue Jays contre les Giants de San Francisco au Oracle Park, un super beau stade à côté de l'eau. Je sais pas si vous avez déjà vu des images, mais les balles de circuit tombent dans l'eau derrière. Fait que le monde a leur kayak, ils vont chercher les balles des circuits dans l'eau. C'est vraiment cool, c'est des belles images. Donc tout ça à San Francisco en juillet prochain. Pour participer, c'est simple. On l'a annoncé un peu plus tôt cette semaine, mais ça commence officiellement mardi prochain, le concours. Quand vous allez entendre une chanson de Blink-182 sur nos ondes, vous allez noter l'heure directement sur notre site web, le blvd.fm. On aimerait bien ça y aller avec vous autres directement à San Francisco. Donc, ça, à partir de mardi prochain, merci à Variété 2020. Puis je vous résume, c'est un trip de fou d'une valeur de 4 000 $, le show de Blink-182, le match de baseball Jays Giants. On vous donne en plus de ça 500 $ d'argent de poche, un 2 500 $ en crédit voyage pour vol et hébergement via le club voyage La Forfaiterie. Méchant beau trip, soyez à l'affût de Boulevard 102, puis officiellement mardi prochain, on part le concours.
C'est un super de beau cadeau. 418-971-1021, 418-971-1021. Actualité internationale avec l'homme qui est enfin en studio avec nous, parce que d'habitude, on y parle tout le temps, il est sur la route. Des fois, il est à l'ouest du Canada. Des fois, il est aux États-Unis.
Là, I am international.
Il nous fait grâce de sa présence, Louis Gauthier, chroniqueur international. Salut, mon ami.
Bonjour, Québec.
Content de t'avoir avec nous en studio. Yes. T'as de l'air d'un gars heureux, toi, dans la vie. Ça se peut-tu?
Toujours.
Ouais.
Toujours. One life to live, you live forward.
C'est vrai, c'est vrai. T'as probablement suivi un peu ce qui s'est passé à Baltimore, le pont qui s'est écroulé suite à une collision avec un paquebot qui transportait des milliers de conteneurs. C'est un pont que les camionneurs du Québec empruntent souvent.
Bien, emprunte si t'as affaire à aller dans le secteur du port de Baltimore, parce que le pont, là, le Francis... Francis Scott Key, ça relie la portion de la 695, qui est une route de contournement de la 95. Lorsqu'on voit des routes interstates aux États-Unis à double chiffre, 95, 10, 70, 81, puis qu'on rajoute un chiffre en avant, on appelle ça une route périphérique. Donc ça, la 695, c'est une route périphérique qui passe à l'est de la 95, donc près de l'océan Atlantique, qui va dans le coin du port. T'as les entrepôts d'Amazon qui sont là, t'as un paquet d'entrepôts qui sont là au bas. Avant d'embarquer sur le pont, t'as des voies de desserte pour descendre dans les installations portuaires, soit du côté est ou du côté ouest de la rivière. Donc les camions peuvent passer sur ce pont-là, mais souvent, on va aller prendre le tunnel de la 95 qui passe un peu plus à l'ouest de ce pont-là, où les snowbirds sont habitués lorsqu'on passe dans le Maryland pour aller en Floride. On passe sous l'eau de la fameuse rivière et on va prendre les sorties pour avoir accès au pont parce que les entrées de camions principales puis les truck stops ou les gosparks sont plus le long de l'entrée du pont-tunnel plutôt que le Scottie Key. Mais ce pont-là, hier, bon, ce qui est arrivé, c'est une bad luck. C'est un bris mécanique, on ne sait pas ce qui est arrivé. Par contre, le pilote de port qui a piloté le bateau a pris les mesures d'urgence adéquates. Tout de suite, ils s'en sont rendus compte là, en partant, là, parce qu'ils ont comme parti de la rive sud de la rivière, puis ils s'en allaient prendre le centre, la portion centrale sous le pont pour passer. Donc, il a fait comme genre de coupe pour venir du côté nord, pour reprendre. Puis là, ben, c'est là qu'il y a eu un pépin. Tout s'est éteint, ça repartait, ça arrêtait, ouais. ça repartait.
Ils sont à manger comme nous autres au Québec, nous. Dès oui. que vous rentrez dans le fleuve Saint-Laurent, c'est des capitaines du ouais. Saint-Laurent qui mm-hmm. prennent en charge votre bateau. Eux autres, dans ce secteur-là, c'est la même affaire.
C'est la même affaire, que ce soit à Newark, que ce soit à Camden au New Jersey, que ce soit à Baltimore, que ce soit à Vancouver, que ce soit en Nouvelle-Écosse, à Halifax. Il y a toujours des pilotes qui apportent les bateaux près des installations portuaires ou des sorties pour les mettre dans leur vitesse de croisière. Ce qui est arrivé hier, c'est que tout de suite, il a appelé les autorités, ils ont fermé la circulation sur le pont. Il a même mis l'ancre à l'eau pour essayer de ralentir le bateau, mais mal étant fait, ça a frappé et ça a tombé comme un jeu de cartes. Il y avait des véhicules, on a vu des véhicules tomber à l'eau, mais c'était des véhicules de service parce qu'il y avait des employés sur le pont. Qu'il y en a qui ont pris la chance d'aller vers le véhicule pour essayer de sortir de là, mais ils n'ont pas eu le temps. Là, on a récupéré 2 personnes, mais il y a 6 personnes qui sont portées disparues, qui sont normalement, qui sont évidemment
probablement
mortes.
Ouais,
oui, parce que l'eau, elle avait une température de 8 degrés hier, lorsque c'est arrivé.
Pas rester là-dedans.
Non, l'hypothermie frappe assez vite, là. Puis en plus de ça, ben oubliez jamais que c'est un corps humain qui est tombé, puis une structure d'acier de plusieurs tonnes qui leur est tombée dessus, puis ça a frappé dans l'eau.
Et quelle mort atroce!
Puis ce matin, on a réussi à rentrer en contact avec une employée d'Amazon, puis eux autres, ils ont dit, bien écoute, on est habitué d'entendre du bruit, puis c'est sûr qu'on entend du bruit là-bas. Parce que, tu sais, tu as les débardeurs, ça fait des bing-bang partout et tout ça. Puis tout ce qu'il a retenu, c'était le choc du métal sur l'eau. Et là, tout le monde s'est reviré de bord. Puis là, la résilience, la force de la résilience américaine, tout le monde est arrivé pour essayer de sauver. Puis regarder ce qu'on pouvait faire. Tout ce qu'il y avait de bateaux autour est allé. Parce que là, on a vu des corps tomber. On a vu, il faut aller les chercher.
Les voitures.
Puis, par contre, le courant est très fort dans ce coin-là. C'est une rivière où le courant est très puissant. Là.
En poursuite du volet humain, c'est atroce. Là. Puis, on peut voir du beau au travers de tout ce qui est arrivé. Il y a des gens qui ont essayé de les aider et tout ça. Mm-hmm. Et le volet économique aussi, l'accès au port qui est bloqué, ça va prendre des semaines avant d'être capable de tout dégager, la structure pour que les bateaux puissent passer pour aller charger ou décharger.
Bien, là, ce qui va arriver, c'est qu'on va aller vers, vers le port de Dover. Qui n'est pas loin, dans le Maryland. On va tout détourner, tout ce qui est l'apport de marchandises et départ, l'arrivée des containers va se faire par là. Je te dirais que ça va prendre à peu près un mois, parce que là, il faut terminer l'enquête, il faut vraiment trouver les corps, il faut vraiment enlever tous les obstacles qui sont là. La compagnie d'assurance puis les avocats, là, je te dis, il y a une armée là présentement pour prendre des photos, faire les enquêtes, le FBI, la sécurité maritime. Le Homeland est là également parce que c'est un bateau qui bat un pavillon d'un pays étranger. Alors, tu sais, il y a un travail d'à peu près 3 semaines, 1 mois, ça va rester comme ça. Puis après ça, ça devrait retrouver un courant, puis un courant de travail normal. Et par la suite, ben, on va effectuer la reconstruction. Puis c'est une reconstruction, vu que c'est une autoroute interstate, donc fédérale, ça va être payé pratiquement 90% par les fonds fédéraux là, qui viennent de Washington.
OK. Hey, on parle de ce qui s'est passé en Russie il y a de ça quelques jours. Mm-hmm. Des individus lourdement armés qui sont apparus dans un centre d'achat, même dans une salle de spectacle, puis qui ont tué des centaines de personnes. Est-ce qu'on en sait plus sur ces individus-là? Parce que, tu sais, sur Twitter, là, je veux dire, c'est rendu un asile. Ah, mais là, ils n'ont pas crié à l'Akbar.
Non.
Ils se sont pas fait sauter à la tête avant de se faire prendre. Fait que c'est pas l'État islamique, c'est probablement d'autres choses. On sait-tu qui sont exactement ces gens-là?
Oui, ce sont des gens du Tadjikistan. C'est un petit pays qui se situe au nord-est de l'Afghanistan et au sud-est de l'Oudjikistan. Donc, c'est un ancien pays qui faisait partie de l'ancienne Union République Socialiste Soviétique, l'URSS, qui a connu son indépendance en 1991. Pour vous donner une idée de ce pays-là, c'est un pays de 143 000 km² et qui a une population un petit peu plus qu'au Québec, 9,4 millions. Donc, c'est 65 habitants au km². Juste pour donner une idée, on est 8-9 millions au Québec sur 1,7 millions de km². OK? Le PIB est à moins 7 %, donc c'est un pays qui est très, très pauvre. Les Tadjiks qui ont agi comme terroristes ont été payés 5 000 $ US pour faire ça. pourquoi ils se dirigeaient vers l'Ukraine? Parce que c'était le point de sortie le plus rapproché qu'ils pouvaient faire.
Hey, 5 000, on est allé vite sur le 5 000 $ US, mais c'est pas beaucoup, mais ça veut dire qu'il y a une grande détresse en arrière de ça. Là.
Oui, il y a une très grande détresse. Et on reproche justement à l'ex-mère patrie, la Russie, de vouloir contrôler les anciens pays et de profiter de la détresse financière de certains pays comme le Tadjikistan.
Ah ouais.
Bon, alors, ce qui est arrivé, puis pourquoi, puis il y a eu beaucoup de théories, beaucoup d'hypothèses qui sont sorties.
Vraiment, les hypothèses les plus folles sont sur Twitter, je vous le confirme.
Alors, posez-vous la question, quel intérêt aurait l'Ukraine à être derrière ces événements-là et à vouloir protéger? Parce que l'Ukraine a besoin de l'aide occidentale pour avoir de l'armement, pour avoir de l'aide financière. On sait qu'il y a 60 milliards de dollars qui est toujours stoppé au Congrès pour des études. On attend après ça, on attend d'avoir la batterie de missiles, antimissiles Patriot, parce que là, ils se font attaquer depuis une semaine à Kiev par des missiles qui viennent les frapper, des missiles balistiques qui viennent frapper en banlieue de Kiev. Donc, l'Ukraine n'a aucun intérêt parce que s'il fallait qu'il demande à des forces islamiques terroristes de venir les aider, bien là, ils perdraient toute crédibilité envers les appuis occidentaux. Donc, c'est impossible que les Ukrainiens se retrouvent là. Maintenant, la piste qu'il faut regarder, c'est la guerre que la Russie mène avec la Syrie. Ça, c'est le premier point. La Syrie, qui est un bassin de couverture de l'État armé islamique. Vous devez comprendre également que le Tadjikistan, qui faisait partie de l'URSS en 1991, avant la scission puis l'indépendance de tous les pays, dans l'URSS, avant 1991, il y avait 17 mosquées sur le territoire de l'URSS. 17 mosquées. Aujourd'hui, il y en a 500 juste en Tadjikistan. La présence islamique, elle est très, très forte dans des pays comme le Tadjikistan, le Kurdistan, l'Ouzbékistan, tous ces anciens pays-là, il y a une présence islamique très, très forte. Et là, on vient en appui, on sait que la Russie, qui a une économie de guerre, qui est très forte, qui a une très, très bonne économie, qui vend son pétrole, qui a le contrôle de l'économie en Asie centrale, comme n'importe que, plus que n'importe quel autre pays, on leur reproche d'avoir ce contrôle-là. Puis, compte tenu de ce qui se passe au Tadjikistan, bien là, on a décidé de faire un attentat, je dirais, extraordinaire, comme les Kurdes ont, comme les Tchétchènes ont fait, comme les c'est Tchétchènes, arrivé okay. toi, à l'époque, tu, les mais, Kurdes sont arrivés.
Mais toi, tu l'appuies, cette thèse-là, que ce serait l'État islamique? Parce qu'un jour, ils l'ont revendiqué, mais ils ont tellement revendiqué de trucs, des fois, qu'on s'est aperçu qu'ils n'étaient pas derrière ça. Est-ce que tu appuies cette thèse-là, que c'est probablement eux autres qui ont fait ça?
Bien, on
parce
sait
moi, j'ai
que
vu l'État... les images des gars qui partaient, là, après avoir tiré sur 30, sur 50, sur 100 personnes et plus. Puis les gars, ils repartaient avec l'arme longue sur le bord de leur cuisse, puis ils marchaient dans la rue, en traversant la rue, puis comme si c'était un lundi, puis ils s'en allaient à la job. Là. Il y avait aucun... On dirait que c'était comme pris pour acquis qu'ils allaient se faire arrêter. Il n'y en a pas un qui a pensé à se faire flinguer, puis il n'y en a pas un qui a pensé à se sauver. Là.
Mais écoute, leur état d'arrestation, pour moi, j'identifie ça comme un statement. Parce qu'ils veulent passer pour des martyrs. C'est la nouvelle mouture maintenant. Tu verras plus... d'éclat pour dire on lance la prière, puis l'État islamique s'est rendu une grosse organisation économique qui a un PIB plus important que l'Allemagne. Ça vous donne une idée? L'État islamique a un PIB très, très important. Ça vaut des milliards. C'est financé énormément, justement parce que ils défendent les principes mêmes de l'islam. Les principes de ce que j'appellerais d'extrême droite de l'islam. Puis ça, c'est très important. On voit ce qui se passe en Iran, on voit ce qui se passe au Qatar, même en Arabie saoudite. On essaie de montrer qu'il y a une certaine ouverture libérale, mais ce n'est pas le cas. Les femmes doivent être voilées, les femmes ne travaillent pas, n'ont pas le droit de travailler. Puis, tu sais, et pourtant, l'Arabie saoudite était prête à avoir une entente avec Israël, ce qui a déclenché les événements du 7 octobre, qui étaient financés par l'Iran, qui étaient financés par la Syrie, qui étaient financés par l'armée État islamique. Alors, l'armée État islamique ne les voyait plus comme des terroristes, voyez-les comme, je vous dirais, les Hells Angels aujourd'hui qui sont rendus des hommes d'affaires. Puis des gens que vous avez vus frapper, bien, ça se trouve être des genres de membres de gangs de rue. Que ça ne dérange pas, qui font les saloperies et les cochonneries.
Ça part dans tous les sens. Il y a même des gens qui disent, voyons, tu sais, est-ce que, parce qu'on le connaît, le bonhomme, en partie, Vladimir Poutine, tu sais, puis ils disent, ça pourrait-tu être la Russie elle-même qui a souhaité faire ce genre d'affaires-là, puis qui peut-être ça expliquerait pourquoi son parti bien relax, sachant qu'elle a été arrêtée, sachant pas si la suite des choses dans les procédures judiciaires, ce sera moins pire qu'on parle. Ça va tellement partout, là, en ce moment.
La Russie, Pascal, n'est pas à l'abri d'incursions de mauvaises personnes qui peuvent venir de partout. C'est quand même un grand pays. Moscou, c'est la capitale. C'est comme Paris. On ne peut pas éviter d'avoir des événements terroristes qui vont se produire là. New York, c'est la preuve. Tu sais, on n'est pas à l'abri. Pour vous donner une idée, là, ils en ont reçu de l'immigration comme n'importe quel autre pays à leur façon. Mm-hmm. Je vous donne un exemple. Les chiffres sont sortis ici au Canada aujourd'hui. La population a augmenté de 1,3 de 3,3 puis ça, c'est à cause de l'immigration temporaire. En un an, on a 1 121 000 nouveaux Canadiens, où la population a augmenté de 1 121 000. On est rendu à plus de 40 millions. Dans d'autres pays, là, comme l'Allemagne, comme peu importe d'autres pays en Europe, c'est aussi important que ça. On a bien beau faire ce qu'on appelle un repérage de personnes qui viennent rentrer. Tu sais, on fait quand même les études de cas, les études de gens qui viennent chez nous, mais ils peuvent avoir des entrées légales. On le sait, ça se passe ici à la frontière sud avec le Mexique, entre le Mexique puis le Canada. Ça arrive dans ces pays-là également.
Mais la Russie, c'est très surveillé. J'ai un de mes amis qui est venu me raconter son voyage chez les ondes de boulevard, qui me disait que peu importe où il allait, là, il se sentait constamment surveillé, pas en danger. Il était en Russie, il se promenait un peu partout, il allait au restaurant, il allait à l'hôtel. À l'hôtel, bien sûr qu'il y avait des agents qui étaient armés, mais à chaque fois qu'il allait quelque part, il sentait qu'il y avait des yeux sur lui, les gens se surveillaient entre eux. Il se sentait super en sécurité, mais très, très, très surveillé. Mm-hmm. C'est sûr qu'il y a eu de l'aide de l'interne pour rentrer ces armes-là. Là. Il y a eu une brèche quelque part. Là. Bien, ils ont eu de l'aide à l'interne.
La même brèche qu'a eu le groupe Wagner qui est rentré à près de 60 km de la ville de Moscou lorsqu'ils ont voulu faire un genre de putsch l'an dernier. Il y a une certaine aide parce que, oui, Vladimir Poutine, c'est un dictateur. Il y a de l'opposition, puis l'opposition peut venir donner un coup de main, puis de l'opposition, c'est pas juste dans la population. Il peut en avoir dans son entourage élargi, dans l'entourage gouvernemental, de la gouvernance, ça peut arriver. Parce qu'écoute, là, on a eu les élections. On a eu l'ex-Advani qui est décédé en prison ça arrive.
Des
là,
raisons questionnables.
Mais des raisons très questionnables. Des raisons, tu sais, il y a plusieurs événements. Donc, il faut, oui, ça peut partir dans tous les sens, mais il faut comprendre la situation géopolitique et la puissance économique qu'exerce la Russie dans l'ancien territoire URSS. Et là, je parle du Tadjikistan, ça vient de là. On est allé chercher, puis ils sont jeunes, on est allé chercher des jeunes qui ont besoin d'argent, qui ne travaillent pas. 5 000 $, puis ils vont se retrouver en prison, puis on va prendre soin de leur famille pendant qu'ils sont là.
C'est la seule chose.
C'est de même que ça fonctionne. C'est l'ADN de l'armée État islamique. OK? Sacrifie-toi, on va s'occuper de ta suite.
La seule chose qui me réconforte un peu, c'est que ces trous de cul-là se sont fait pogner par les Russes, puis ils ne reverront jamais la lumière du jour. C'est des gens qui vont souffrir du jour 1 jusqu'à la fin de leur vie. Si c'est arrivé
on a vu de quelle façon se sont fait interroger. On frappe puis on pose après.
Hein? Le pied sur la tête. Ouais. Alors, j'en ris, mais...
On m'a demandé s'il y avait des caméras dans les salles d'interrogation. Je crois que des caméras-là, c'est croire au Père Noël.
Mais tu sais, si ce qu'ils ont fait là-bas est arrivé ici... Ben, y a des gens qui les prendront en pitié en disant, ben là, tu sais, ils ont été payés, c'était des gens qui étaient pauvres, sont venus ici. Oui, ils ont fait des atrocités, mais 25 ans de prison minimum.
Moi, je peux aller plus loin que ça. Nos policiers vont arrêter un malfrat, ils vont le coucher à terre. puis ils vont se retrouver en déontologie policière parce qu'ils l'ont trop brassé.
Oui, mais souviens-toi des images du Dagobert, il y a de ça quelques mm-hmm. années. C'est fait-tu 2 ans, 3 ans, des jeunes qui semaient la discorde sur la terrasse du Dag pendant l'hiver.
C'était filmé.
Puis les policiers ont dû mm-hmm. intervenir rapidement parce qu'il y avait eu de l'information comme quoi c'était des membres de gangs de rue qui étaient là et il y en a qui étaient armés. Puis une fois que des individus étaient menottés par terre et tenus par terre, ben les gars continuaient à gueuler après les policiers. Puis à un moment donné, il y en a un qui a fait l'erreur, un policier, d'envoyer de la neige dans le visage de, mm-hmm. du jeune homme. Et là, tout le monde était outré de ça. Le Québec au complet regardait ces images-là en disant « Hey, à Québec, c'est des racistes! Mm-hmm. » Il y a même un avocat qui était sorti dans les médias qui voulait être l'avocat de ce jeune homme-là qui avait reçu de la neige d'en face en disant « À Québec, c'est reconnu comme étant une ville raciste. » Finalement, quand on s'est aperçu que toute cette belle gang-là, c'était des trous de cul, il n'y a plus personne qui a dit que Québec, c'était une ville raciste. Là. Non, on s'est rendu compte que les gens qui étaient là avaient peut-être au minimum besoin d'un peu de neige d'en face pour réfléchir sur leurs actes.
À quel point les réseaux sociaux sont puissants,
ben oui.
À quel point ça parle, ouais. Mais c'est pour ça que tu as un resserrement des mesures de protection dans des pays comme la Russie, comme dans d'autres pays. Et c'est malheureusement, ce qui est arrivé à ces gars-là, c'est un statement. OK? Ils se font arrêter parce que c'est la première chose, c'est comment ça fait que ce ne sont pas fait harakiri, qu'ils n'ont pas explosé, qu'ils se sont pas
parce que normalement,
suicidés.
C'était ça?
Normalement, c'est ça, mais ça démontre une nouvelle marche parce que ça fait encore plus mal, puis ça donne encore plus de poids aux anti-Poutine, en voulant dire que c'est un tyran, il va y faire mal en pensant qu'ils vont surveiller, puis qu'Amnesty International va rentrer dans le dossier et tout le tralala. Mais en dehors de tout ça, Yannick, il faut comprendre la situation géopolitique, pourquoi ça a été causé, parce qu'il y a une détresse financière dans des anciens petits pays de l'URSS, mm-hmm. et le nombre, les statistiques que je vous ai données parlent d'elles-mêmes, puis là, ben ils n'ont plus rien à perdre, ces gens-là.
Mais je m'excuse, mais ça parle tellement sur le contexte géopolitique qui s'en vient puis qui est déjà entamé partout dans le monde parce que ça devient des alliés cheap labor qui, eux, ne voient pas autre chose que la survie de leur propre personne et ou de leur famille parce que l'argent va où, je ne sais pas, mais une fois que tu es arrêté,
ça va dans la famille.
Moi, ça me fascine. Puis en ce moment, tu sais, Vladimir Poutine, il perd quand même beaucoup des plumes au profit de la Chine. Puis on s'en rend pas nécessairement compte, mais on donne comme... Il devient finalement le petit « Dance for me, my puppets », là. Puis lui, il aime pas ça parce qu'il a un égo surdimensionné. Rappelez-vous, c'est lui qui s'est auto-proclamé l'homme le plus beau au monde, là. Ça n'est même pas une farce, là. Oui, je te jure, Yannick. Puis il l'avait dit de façon publique, là. C'est pas toi, il t'a devancé, ça, là. Oui.
T'es deuxième.
Mais c'est fascinant de voir ça. C'est fascinant de voir ce contexte géopolitique. Puis on voit aussi, des pays qui, comme la Chine, encore une fois, offrent énormément en Afrique en construisant des écoles, en construisant des hôpitaux, en construisant plein de choses, mais ils demandent quand même aux ressources naturelles de l'endroit de les privilégier puis de les prioriser. Il y a vraiment quelque chose d'inquiétant qui s'installe en ce moment.
On disait que pour régler la situation, puis on en parle de plus en plus, qu'est-ce qui va régler cette situation-là sur la grande boule? Parce que ça brasse un peu partout, c'est un peu tout croche. C'est qu'on a une gouvernance occidentale qui est faible.
Mais la démocratie est en chute libre, là.
Oui, c'est ça.
Je suis pas sûr qu'on va être capable de faire quelque chose, là.
Bien, la gouvernance, donc, on parle d'une troisième guerre mondiale, mais est-ce que ça va régler comme ça a réglé lors de la première guerre mondiale puis la deuxième guerre mondiale? Lorsqu'il y a eu des guerres mondiales, on a eu des leaders d'État qui se sont démarqués. OK? Chamberlain a débarqué en Angleterre, puis il y a un gars qui est sorti de nulle part, qui s'appelle Winston Churchill, qui n'était pas vraiment aimé dans la population, puis pourtant, c'est devenu un leader de cette guerre-là, de la Deuxième Guerre mondiale. Je suis pas en train de vous dire que ça va prendre une Troisième Guerre mondiale, mais il va falloir régler avant tout le problème de la gouvernance occidentale qui est faible. Je vous rappelle à l'époque de la Glasnost, lorsque, en 1991, au milieu des années 80, il y avait une gouvernance qui était forte. On a enterré le 18e premier ministre cette semaine. Brian Mulroney en faisait partie. Il y avait Helmut Kohl en Allemagne. Il y avait Margaret Thatcher en Angleterre. Il y avait Reagan Bush aux États-Unis. Il y avait Mitterrand en France. C'était respecté. Il y avait une guerre froide. Il y avait encore le mur de Berlin.
Il y avait certaines bases aussi au niveau politique et
oui,
des respects.
Oui, il y avait une base. Puis ça, on appelait ça la guerre froide. Là, on est en train de parler d'une guerre froide 2.0 qui est en train de se dessiner.
Sans limite, sans barrière, sans arrêt de jeu, si je peux le dire comme
donc,
ça.
Donc, dans l'équation, ce que je disais, si à l'époque de la guerre froide, on avait une gouvernance qui se tenait et qui était capable de tenir tout le monde serré, bien, dans l'équation aujourd'hui, si on est en train de faire une guerre froide 2.0, ça va prendre une gouvernance.
Non, puis tu ne veux pas avoir un Trudeau ou un Biden qui vont être de la partie.
Bien,
des mains molles.
Bien, je parle de gouvernance faible. Je pourrais vous en nommer une dizaine.
Oui, c'est ça.
Partout à travers le monde.
Louis Gauthier, c'est un plaisir de te jaser. Merci beaucoup de t'être présent en studio.
Ouais,
je sais que tu as un horaire assez bien garni. T'as un beau hoodie. On est un peu jaloux de ton gilet capuchon.
C'est quoi ça?
Ça, c'est Winner Winnipeg. Les Blue Bombers de Winnipeg.
Okay.
Qui ont gagné. Puis là, il s'est fait faire un hoodie. Puis là, il vient nous le montrer dans la
face. Non, on n'a pas gagné.
Ils ont
perdu
contre nous autres.
Ah, c'est vrai, vous aviez perdu. Oui.
Ben oui, j'ai fait amende honorable. Tu t'en souviens
oui,
pas?
Oui, t'as porté un gilet des Alouettes.
Non, non. Je ne porterai jamais un gilet des Alouettes. J'ai mis des stickers des Alouettes de Montréal sur mon gilet, sur ce gilet-là.
C'est pas grave.
Et voilà.
On a gagné pareil. Louis Gauthier, merci.
Au plaisir de se reparler, Québec.
Ça a eu le plaisir et pour nous autres. Pearl Jam, Better Man sur les ondes de Boulevard, on vient.